Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. I Feel Good, c'est toujours 30 minutes pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps de s'arrêter, écouter, questionner, se questionner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous proposer la rencontre avec un jeune homme rencontré par hasard dans un super bon bistrot. On en parlera tout à l'heure. Il est parti dans la vie avec un handicap et il a poursuivi avec fougue, avec envie, avec ténacité. C'est le parcours que je vous propose de rencontrer. C'est Romain Fauvet, mon invité.
So good, so good, I got you.
Bonjour Romain.
Bonjour.
Tu dégages une énergie à peine croyable. On s'est rencontrés par les hasards de la vie. Alors, c'est pas tout à fait un hasard pour moi d'être dans un restaurant, parce que j'aime bien ça, mais voilà, c'était la pause déjeuner, et puis en deux temps, trois mouvements, tu crées le lien. Je te vois rentrer dans le resto, on voit un peu le handicap, mais voilà, et puis c'est ce côté un peu solaire, rayonnant. Alors, un handicap solaire rayonnant, comment ça peut aller ensemble tout ça?
Comment ça peut fonctionner? C'est à la fois complexe et simple, mais je vais aller sur le simple. C'est qu'en fait, dès la naissance, mes parents n'ont pas eu le choix de se battre. Donc, moi, par la suite, je me suis juste dit que, à la manière d'un entrepreneur, on n'a pas le choix de faire progresser son entreprise et de vaincre et de marcher. C'est tout. J'ai juste pas de marche arrière, quoi. C'est tout.
Alors justement, la marche, c'est quelque chose de pas facile, justement, pour toi. Quel est ton handicap? Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu et expliquer ce qu'il traduit pour ta vie au quotidien, mais aussi ta vie depuis l'enfance, puisque on va commencer dès le début, par là où tout a commencé. Ta première date importante dans ta vie, c'est bien sûr, c'est ta naissance, c'était le 11 février 1993.
Ouais, le 11 février 93. Alors, il faut savoir que le 11 février 2005, c'est la loi du handicap pour permettre une insertion plus importante des personnes handicapées. Donc, c'est un hasard.
Une loi importante qui a permis un peu plus d'inclusion par l'adaptation des lieux, notamment, mais pas que.
Pour vraiment, que les personnes handicapées sentent cette égalité et ne se sentent pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blocage. Le but, c'est ça, c'est que ce soit aussi fluide que quelqu'un qui est entre guillemets normal.
Mais avant 2005, si on revient 12 ans avant.
Alors avant 2005, du coup, comme j'ai dit, mes parents ont dû se battre dès le début et ils m'ont choisi une kiné que j'ai toujours, qui s'appelle Dorothée Renaud, que je salue aujourd'hui, et c'est la même depuis 32 ans.
Tu y tiens.
Maintenant, j'y tiens parce que justement, Dorothée, elle est solaire, elle rit et on se marre tout le temps, et vraiment, 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 sans rire, ça fait vraiment toute la différence parce que c'est des moments difficiles à vivre. Chaque étape de la vie est difficile, surtout quand on est dans ce cas-là. Et donc le fait d'avoir une confidente qui peut tout recevoir, surtout quand on est enfant, ado et tout, et qu'on veut pas tout dire à ses parents, et que là elle juge pas, et puis on continue à se marrer, à travailler surtout. C'est ça le but. Et moi j'ai toujours ensuite retrouvé ça chez les gens avec qui je travaille et à qui je fais confiance, c'est qu'on se marre et on bosse. Et il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on ne bosse pas en disant « Ouais, on fait que ça. » Et puis c'est tout. Il faut penser à l'apéro, il faut penser aux choses. Il faut penser au restaurant, il faut penser à manger, il faut penser à tout ça. Mais c'est tout. Là, je reviens du Mans. On a fait 8h, 23, 20, enfin minuit non-stop. Mais c'est tout. On a vendu, on s'est marré et tout ça. Et c'est pour ça que les gens viennent. C'est pas pour voir juste des gens qui sont pressés et qui font une mine de travailler.
T'es un gourmand de la vie, hein, parce que là, tu nous as raconté plein de choses, mais t'as pas répondu à la question. Le handicap, il se définit comment?
Alors, c'est très compliqué, par contre, à exprimer. C'est ouais. Une maladie qu'on appelle neurophysique, donc c'est le syndrome de Little. Et donc, quand je dis neurophysique, c'est que, en fait, c'est pas seulement un physique qui est vraiment, que j'ai vraiment du mal à gérer, c'est-à-dire que le physique peut être très développé, mais il reste ce côté neuronal qui est très difficile. Parce qu'en fait, la transmission de l'information est différente et est plus lente. Et ça se traduit par des raideurs chroniques, des douleurs chroniques sur lesquelles il faut passer du temps au sauna, il faut passer du temps au hammam ou au spa ou des choses comme ça pour et puis il faut des fois prendre des médicaments pour pouvoir un petit peu souffler
parce que tu as mal.
Ouais, parce que j'ai mal. Après, c'est quelque chose qu'on peut, et c'est ça, c'est là où c'est vraiment une victoire, c'est quelque chose qu'on finit par pouvoir gérer si vraiment, vraiment on creuse et qu'on y va intelligemment, qu'on s'entoure de plein de gens. Moi, j'ai un médecin traitant, j'ai un médecin du sport, j'ai une jeune fille qui m'aide aussi pour tout ce qui est ce côté nerveux qu'il faut à tout prix essayer de calmer. C'est comme si moi j'avais besoin plus de yoga que les autres parce que c'est une mauvaise transmission qui restera toujours la même et qui donc provoque ces raideurs anormales qui existeront toujours, et c'est ça qui est un peu difficile à accepter. Mais parce que même si j'ai un physique qui est très 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 développé, ça ne change rien les informations. Si par exemple moi je fais un trajet routier, eh ben il faut que je privilégie, je sais pas, les routes de campagne face au monde dans la ville, parce que sinon c'est très très dur. Et je me suis aperçu que c'était pas seulement dur pour les jambes, le fait de faire droite et gauche pour l'accélérateur et les freins, c'est aussi dur parce que la saisie de l'information, elle est bien plus dur, même si moi j'ai une volonté de dingue, ça change rien.
Volonté de dingue, tu l'as eu depuis tout petit. Raconte-nous la petite enfance. Comment ça s'est passé, la relation avec les parents, comment tu as appris à découvrir cette maladie, comment tu as réussi à la dompter, comment tu as réussi à en parler aussi
La chance que j'ai eue, en fait, c'est comme toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je pense que j'ai dit non dès le départ. Donc bon, ça m'a porté préjudice par la suite parce que j'ai refusé toute aide, les aides de stationnement que j'ai récupérées par la suite. Mais je veux dire, j'ai tellement refusé le fait d'être comme ça, handicapé, et j'ai tellement voulu, je ne sais pas, faire comme tout le monde. Mais ça, c'est quand on est enfant, c'est ce qu'on veut faire, hein, c'est-à-dire faire comme tout le monde ou être à la mode, etc., etc. Mais là, encore plus. Et pour être intégré, en fait, parce que voilà. Mais j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens sportifs dès le début et qui m'ont, eux, poussé sans s'en rendre compte et qui m'ont permis, en fait, de cultiver ça. Mais en fait, c'est moi la seule chose que moi je fais et ma seule qualité en gros là-dedans, c'est que moi j'alimente ça. En fait, c'est comme voilà, si on commence à cultiver un jardin, et ben il faut jamais le laisser, il faut toujours continuer à l'alimenter. Et à un moment donné, ça va être exceptionnel, en fait. Mais si vous le laissez à un moment, même si on vous a donné un carré ou qu'on vous a donné je sais pas combien d'hectares, ça change rien. En fait, il faut alimenter ça. Et moi j'ai la chance parce que c'est comme ça. Je sais pas, même dans le sport automobile dont on parlera plus tard, j'ai rencontré des gens extraordinaire, mais il n'y a qu'avec ces gens que ça marche, et il n'y a qu'avec ces gens que je travaillerai, et c'est tout. Et après, ça peut être un défaut, parce que ça ferme peut-être certaines portes, mais au moins, quand on est là, on est vraiment là, et voilà.
Il y a eu un déclic, tu me racontais, il y a eu un déclic en CM1, hein, à peu près, c'est à ce moment-là que ça s'est joué. Qu'est-ce qui est...
Ouais, ça je m'en souviens, je m'en souviens très bien.
C'est la deuxième date importante dans ta vie.
C'était, je sais pas exactement donner la date, mais mon père m'a, enfin, contre, personne voulait que j'en fasse. Je veux dire, j'ai fait du tricycle, des choses comme ça, même tricycle, gros tricycle. Et ensuite, j'ai dit, c'est pas possible. De toute façon, pour le dire un peu vulgairement, tout le monde va se foutre de ma gueule, j'en ai marre, je peux le faire, je veux le faire, et on essaye. C'est tout, tant pis. Et donc, mon père a fini par accepter, je ne sais pas comment j'ai fait pour le persuader, mais il a fini par accepter. On est allé chez MBK à Nancy, ils vendaient encore des vélos à ce moment-là. C'était des vélos nancéens, c'était un vrai vélo nancéen. Chez MBK avec monsieur Michelon. Qui nous a vendu le vélo, je m'en souviens. Et donc, là, c'était un vélo jaune voilà, que j'ai pu maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et donc, j'ai pris mon vélo... tout seul et j'ai pas arrêté de rechuter et en fait il y avait près de chez moi avant il y avait une descente qu'on arrivait à descendre avec des potes qu'on descendait en trottinette ou choses comme ça et je me suis dit si cette descente j'arrivais à la faire elle était en virage et donc c'était dangereux en plus parce que c'était sur un parking. Enfin bon, si une bagnole était arrivée, bon, bref. Mais bon, ça c'est quand on est gosse, on pense pas à tout ça. Mais du coup je me suis dit, si j'arrive à faire le virage sans tomber, là, c'est bon. Là, c'est tout. Et là, on a gagné. Et moi, j'y allais par tous les temps. De toute façon, on peut demander à mes parents, parce que c'est eux qui regardaient, je pense, le spectacle par les fenêtres pour être sûr qu'il se passait rien. Mais, et à un moment donné, je ne sais pas comment, j'ai réussi à tenir dans le virage en descente. Et je me suis dit, si tu tiens à ce moment-là, c'est bon, tu recommences. Et là, c'est bon. Et j'ai passé, enfin je passe ma vie justement à essayer d'être libre, plus libre, encore plus libre. Et c'est ce truc-là de comme on dit des fois, on n'écoute pas tout le monde parce que voilà, on s'écoute soi, on va y arriver. Et c'est le fait aussi de l'avoir fait tout seul, sans personne avec moi. Et j'étais
pas d'accompagnateur, personne pour parer au cas où.
Personne par rapport au danger aussi, oui, parce que ça, sûr. C'est important. Parce que dans la vie, après, on l'apprend plus tard, il y a des gens, justement, mais ils ne seront pas là tout le temps, et en plus, et donc on est tout seul. Mais ce n'est pas grave d'être tout seul, parce qu'en fait, on a quand même ses proches, on a quand même tout ce monde-là, mais si on veut faire un truc et le réussir, en règle générale, il faut le faire tout seul.
Il y a deux choses importantes que tu viens de dire, là, il y a la soif de liberté, c'est ton expression. Et puis, il y a la volonté, le désir de prendre des risques, ce qui n'est pas du tout commun, courant, ça. Tu souhaites prendre des risques pour avancer.
Oui, bah, comme je le fais aujourd'hui avec la société HTC Santé à Nancy, c'est des gens, quand je suis arrivé par hasard, parce que, enfin je vais pas détailler, mais donc je suis arrivé par hasard chez eux, ils m'ont proposé ce truc-là, et donc c'est un principe de fonctionner avec des électrodes, en mettant des électrodes sur le corps, ce qui permet d'actionner des décharges électriques et de recréer des informations pour des mouvements, etc. Et donc, on exécute des exercices de kiné ou des exercices physiques très, 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 très difficiles. Et ce sont des gens qui m'ont dit justement, OK, on prend le risque. Parce qu'il y a un risque, par rapport à ce qu'on appelle la spasticité ou le mauvais développement neuronal, etc., etc. Parce que ça peut, dans peut-être 0,1% des cas, l'augmenter. Et moi, je prends ce risque parce que je préfère prendre des risques et vivre à fond que prendre zéro risque ou peu de risque et vivre en bas.
Vivre en dépendance, vivre ouais. Au crochet de quelqu'un.
Oui. Ah ça, je c'est comme je dis, je signe pour certaines choses et pas d'autres. Sauf quand véritablement s'il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que je pousse jusqu'au bout. Et après, tu te dis bah ok, c'est tout à fait le maximum et tu peux pas. Mais si tu peux, tu y vas. S'il y a 0,2% qu'on peut y arriver, eh ben on va y arriver.
Explique-nous un tout petit peu plus encore, si tu veux bien. C'est le 1er décembre 2023, c'est ta troisième date importante dans ta vie. Tu viens de l'évoquer, cette rencontre avec la société nancéenne, HTC Santé. Ça veut dire quoi ? Donc on a bien compris, c'est une prise de risque que tu prends, petite, mais prise de risque parce que c'est quand même... de ta santé dont on parle, c'est quand même pas de perdre 5 ou 10 euros, là, c'est quand même de ta santé. Comment tu en es arrivé là? Pourquoi tu as fait ce pari de prendre ce risque. Si tu peux nous le redire, le mettre un petit peu en perspective dans ton histoire, par rapport à ton histoire.
Je vais essayer de le mettre. Je veux dire, moi, je suis passionné de Formule 1, mais plus la Formule 1 des années 80 ou 90. Mais les gens, en fait, y a des gens qui ont perdu leur vie ou qui ont, enfin, ouais, bon, qui se sont blessés, etc. Mais ils signaient pour prendre des risques, mais prendre des risques, ça veut dire des risques calculés et qu'il y a une marge. Il y a une marge d'erreur, il y a une marge d'imprévu, il y en a toujours une. Mais quand ils s'installaient à leur volant, ils ne pensaient pas, contrairement peut-être à aujourd'hui, ils ne pensaient pas à quelqu'un d'autre ou même à eux. Ils pensaient juste à gagner. Et moi, je ne pense qu'à gagner. Et je suis conscient, évidemment, comme eux étaient conscients de leurs risques. Hein. C'est pas, ils s'envoyaient pas comme ça au casse-pipe, et c'est pas la volonté, c'est pas ma volonté non plus, mais ils signaient pour la victoire à n'importe quel prix, sauf quand véritablement, comme en 1976, par exemple Loda Hunt, des choses comme ça, ils ont arrêté la course. Mais enfin, certains n'ont pas voulu participer, ok, d'accord. Et il n'est pas question de vouloir jouer chevaleresque, etc., de vouloir aller là où personne ne va, ou voilà. Mais c'est quand même aller vraiment, vraiment à la limite de ce qu'on peut faire.
Robin, on va revenir sur tout ça. On se fait une toute petite pause musicale qui est en lien avec le sport automobile. On débriefe dans quelques instants. C'est une chanteuse que tu nous fais découvrir, Daphné Drou.
Fresh, I got a new one, babe. First dates make me anxious. I cry at home, then meditate sometime. What if I'm someone nobody keeps around? What if it doesn't work out? But what if it does? What if it does? Being scared is a shit excuse to not get out of your way. Bitter, broken, but better by the day. Fresh, fresh, I got a new one, babe. Easy, baby, will never leave me. Fresh, fresh, I'm so in his head. First times make me nauseous. I try too hard, cause I'm socially anxious. What if I'm someone nobody hangs around? If he tries to kiss me, how will I get out? Say sorry, bye. Being scared is a good excuse to be mysteriously detached. Bitter, broken, but better by the day. Fresh, fresh, I got a new one, babe. Easy, baby, will never leave me. Fresh, fresh, I'm so in his head.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
C'était Fresh Fresh de Daphné Drou. Qui est Daphné Drou, Romain?
Daphné Drou, c'est tout simplement la fille de Pascal Drou, qui est un très très grand journaliste sportif spécialisé dans le sport automobile. Et voilà, avec qui je partage cette passion, et puis cette passion aussi du travail bien fait. Et du travail fait dans la rigolade, mais avec énormément de sérieux et
efficacité.
Voilà, efficacité.
Et donc le sport automobile, tu l'as déjà embrassé dans le début de la première partie de l'émission. T'as déjà évoqué les sensations, les difficultés, l'enjeu, le milieu urbain, le milieu, les routes de campagne, tout ça. Et c'est une passion pour toi, c'est quelque chose. Parce que c'est justement impossible, et parce que ça t'était impossible, tu y es allé à fond. Parce que tu y es allé à fond dans le sport automobile. Raconte-nous un peu ce que tu y fais.
Alors, actuellement, j'y fais surtout de l'événementiel. Donc, je vends des magazines et tout ce qui est... c'est du merch, équipement, quoi. C'est tout l'équipement pour équipement automobile. Et j'étais rédacteur aussi au sein de ces magazines.
Donc des magazines plutôt de course automobile.
Ouais, c'est des magazines de course automobile. On a fait Le Mans là hier avant-hier. Et donc on a vendu Spirit of Le Mans, qui est un très 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 bon magazine qui est parrainé par la CO, donc qui est l'Automobile Club de l'Ouest.
Et c'est le beau magazine
à avoir chez soi si on aime en tout cas les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves d'endurance, donc les très grandes épreuves longues de course auto.
Donc tu piges là-dedans, tu rédiges.
Ouais, je pige et surtout je suis présent aux événements et c'est ça le plus important pour moi, c'est de pouvoir être intégré au sein de ces événements, de pouvoir y aller. Là, je suis allé en train, j'ai pris ma trottinette électrique, je suis arrivé en trottinette électrique sur le circuit et tout s'est bien déroulé.
Tout ça pour repousser, enfin pas tout ça pour, mais en tout cas pour repousser les limites du handicap qui ne vont pas t'arrêter.
Ah bah, là, ça va faire un peu prétentieux, mais rien ne m'arrêtera. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit au début, c'est tout. Comme en sport auto, les Formule 1, ça dépend, mais les Formule 1 dans les années 80-90, elles n'avaient pas de marche arrière. Et moi, j'en ai pas, c'est tout. Donc, t'as pas le choix. Tu peux pas. T'es sur ton circuit et tu peux pas revenir. Donc la seule truc que tu fais, tu t'installes dans ton baquet et tu fais ton boulot. Et tu fais des meilleurs chronos. Mais tu vas pas dire, ah ben non, tiens, je vais prendre le circuit en sens inverse et puis on va essayer de voir. C'est la vie, de toute façon, elle te fera revenir dans l'autre sens.
Et toi, tu t'es déjà mis dans ce baquet un peu pour conduire, pour piloter ?
Pour piloter, à vrai dire, très peu, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais je faisais du karting à l'époque où il y avait un circuit près d'ici à Tomblaine et mon père m'emmenait... je lui dois beaucoup pour ça parce que il m'emmenait et puis je faisais des tours et des tours et puis c'était un très beau circuit un peu désaffecté comme ça, enfin mais vraiment le type, je m'en souviens, était très sympa et puis il m'offrait des tours et tout ça et puis j'ai quand même tourné, j'ai beaucoup tourné en karting après sans jamais pouvoir intégrer des écoles ou des choses comme ça, mais après c'est très difficile. Et encore une fois, c'est parce que j'avais tout ça à gérer derrière aussi que ça devient plus difficile que les autres.
Alors ça, c'est une passion dévorante, le sport automobile, depuis, on l'a compris, donc depuis assez jeune quand même. Et puis aujourd'hui, la trentaine, tout ça, tu bosses aussi.
Oui.
Tu fais quoi ?
Alors là, moi, c'est la force des choses, mais je suis donc accompagnant d'élèves en situation de handicap, donc j'aide et j'accompagne des élèves qui sont ce qu'on appelle 10 ou multiple 10 ou qui ont différents problèmes de comportement ou des problèmes physico-moteurs comme moi. Et donc, l'idée centrale de ça, c'est de faire profiter de l'exemple que je peux donner. Par ma présence et puis justement ma motivation, c'est-à-dire que moi je suis là pour je suis là comme un coach pour eux, c'est moi je pense que c'est comme ça qu'on doit faire ce travail là, c'est-à-dire que je dis pas grand chose parfois, je dis juste je sais pas, fais ton exo, tac tac tac, et mais rien ne sert de parler beaucoup en fait, mais rien que par la présence, et les élèves peuvent pas dire grand chose en fait, et ils sont obligés de faire leur boulot parce que c'est tout.
Parce que t'es là.
Parce que je suis là.
Depuis combien de temps tu es c'est AESH
Je suis AESH depuis ça fera la septième année là.
Enfin, ça
fera
8
ans
ouais,
pour l'année prochaine.
Ouais. Une sacrée expérience qui t'a. Est-ce que ça t'a remis en cause toi par rapport à ton handicap, ta façon de d'appréhender le handicap?
Il y a certaines personnes, certains élèves, comme mon élève que j'ai là, qui est très 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 gentil et qui se bat justement énormément. Et en fait, c'est pas que je me vois à travers lui, mais je vois à quel point c'est difficile de surmonter tous les jours un truc, que ce soit un problème nerveux, un problème physique, c'est très 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 dur. Et Et c'est très, très dur des fois de le faire comprendre au professeur parce que, je veux dire, c'est très, très dur à gérer.
Alors,
à
j'allais un âge dire, comme ça. Bah justement, le milieu ordinaire, comme on dit, je ne sais pas si c'est le terme oui, que tu emploies, mais comment toi aussi, là, tu as ce rôle de médiateur peut-être un peu plus légitime, non ?
Légitime en quel sens, c'est-à-dire
de par ton handicap, pouvoir dire je suis le médiateur entre le jeune que j'accompagne et le milieu dit ordinaire.
Je pense que là il y a pas beaucoup de liens encore qui sont faits parce que c'est très difficile pour les gens ordinaires entre guillemets de se rendre compte de ça en fait de la multitude de choses qui...
Mais tu crois pas qu'on progresse comme depuis justement on évoquait la loi 2005 justement, donc j'ai bien retenu la date, donc du coup le 11 février, mais est-ce que tu crois pas quand même qu'on progresse
Si, parce que justement on est là et vous on n'est pas considéré comme des intrus ou des choses comme ça, enfin il y a certaines personnes qui sont encore un petit peu dans l'ancien temps, je dirais, pour en acceptant pas ce genre d'intervention, mais sinon, justement, ouais, on est très bien intégré au sein de l'équipe pédagogique et ça marque effectivement un progrès parce que ces personnes-là, ces élèves-là, ont besoin de nous, enfin de d'aide et le but c'est qu'en fait leur scolarité, comme bon moi j'ai une scolarité sans personne non plus parce que je pense que j'aurais refusé à l'époque, mais ce que je veux dire c'est que c'est une béquille pour eux et eux ça leur permet d'aller voir leurs potes à la récré et de se marier avec eux et de faire comme si de rien n'était. Donc c'est ça que moi je veux, c'est qu'à la fin ils puissent aller à la récré tranquille et puis s'éclater quoi.
On se voit quand même un peu plus et un peu mieux me semble-t-il, mais dis-moi si je me trompe sur les différences qu'on peut avoir. Elles sont liées à un handicap, elles sont liées à un physique, elles sont liées à une histoire, à une culture. On progresse quand même, non
ouais,
grâce à tout
ouais,
ça.
Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Ouais,
parce que beaucoup, ouais, tu dis beaucoup. Ouais.
Parce que c'est étonnant même. Ça dépend, mais c'est vraiment étonnant parce que les collégiens à cet âge-là arrivent à rien dire, à ne pas se moquer. Mais il faut rappeler quand même que les gens, plus on bosse, plus les gens, qu'ils aient l'âge, qu'ils aient 12 ans, 20 ans ou 30 ans, moins ils vont se moquer et plus ils vont dire « Ah ok, il y a du respect, il y a quelque chose. » Parce que le gars, il se bat et c'est tout. Et plus on fait ça, plus on va vers ça et plus personne va chercher... Enfin voilà, même si c'est encore dur, c'est encore difficile parce que la différence c'est difficile parce que on est sur une majorité et une minorité. Enfin c'est des choses logiques.
La place de la famille dans tout ça, de ta famille dans tout ça.
Ma famille me soutient énormément. Donc après il y a mon petit frère aussi qui avec qui je sais pas. Nous le handicap on n'en parle pas, parce que je sais pas, moi c'est comme mon boulot, donc on n'en parle pas avec mes potes, on n'en parle pas. C'est parce que c'est tout. C'est mon petit frère, il est cool, il est très gentil, et puis il m'aide. Enfin, quand on partage un moment ensemble, il est toujours là pour justement moi aussi repousser les limites et puis être là s'il faut porter, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça, pour qu'on partage un moment énorme ensemble. Et puis qu'il y ait pas, que moi je me sente pas plus handicapé, fatigué, etc., etc. Et ça c'est énorme, le fait d'avoir quelqu'un avec soi et qui a envie aussi, mais en tout cas qui dit rien et qui est là pour que ça se passe le mieux possible, quoi.
Pour partager l'envie de la vie. Merci pour ce superbe témoignage, Romain. C'est 30 minutes de coaching pour toujours avancer dans la vie. Merci, Romain.
Je vous en prie. Avec plaisir.